Je suis Christian Lacombe et dans un brin d'histoire, j'aborde la richesse de notre patrimoine régional. Bonjour à tous. Cette semaine, dans un brin d'histoire, je vais vous parler des villes d'eau, des Pyrénées et Luchon en particulier. Le 19e siècle a connu un âge d'or du thermalisme et un développement spectaculaire des villes d'eau. Plusieurs sources furent équipées dans la Haute-Garonne. Barbazan, Salis-du-Salat, Ancos, Gantis, aucune ne peut rivaliser avec Bagnères de Luchon, la reine des Pyrénées. Villégiature privilégiée des Toulousains, mais aussi des Parisiens. L'arrivée du train dans les Pyrénées en 1864 à Montrégeau et à la gare de Luchon en 1873, tout cela va favoriser le développement du thermalisme pyrénéen. Luchon est bien une station mondaine qui accueille les élites culturelles, administratives et politiques du temps. On peut citer Lamartine en 1840, Flaubert en 1840, l'impératrice Eugénie et son fils, Michelet, Ferdinand de Lesseps, Bismarck en 1867, Gambetta 1877, Alexandre Dumas fils, Clémenceau, Thiers, et encore Jaurès, Joffre, Foch, José Maria de Heredia, et bien sûr, Edmond Rostand. Va s'ajouter à ces attraits le développement du pyrénéisme, avec la découverte des sommets, le port de Vénasque, la vallée du Lys et sa cascade d'enfer, le plateau de Superbagnères ou le lac d'Eau sont, dès 1850, des lieux courus des Pyrénées et la découverte de la haute montagne grâce à Alfred Tonnelet, Henri Russel, Maurice Gourdon, le baron de la Susse et beaucoup d'autres. Les cures thermales et leurs bienfaits sont connus des Romains et furent remises à l'honneur par l'intendant d'Etigny au XVIIIe siècle. Les hôtels de voyageurs sont construits alors, comme l'hôtel le plus célèbre, l'hôtel Saccaron sur les allées d'Etigny. Il compte 6 niveaux au-dessus du sous-sol. Celui-ci, à demi-enterré, est destiné au service. Il y a aussi des hôtels aristocratiques significatifs du XVIIIe siècle, comme l'hôtel de la Susse-Nestier, 1773, ou l'hôtel de Casa, 1789. Mais il fallut attendre 1848 pour que l'on reconstruise les thermes sous la direction de l'architecte Edmond Chambert. la ville d'Eau s'organise alors sur les allées d'Étigny, qui font 30 mètres de large, et tracées entre le vieux bourg Comminjoie et l'établissement thermal. Edmond Chambert, 1811-1881, est le fils d'artistes toulousains. Il est architecte de la ville de Toulouse avec Urbain Vitry, puis architecte départemental et diocésain jusqu'en 1843. Chambert est appelé à ce titre pour intervenir à Luchon, ceci après l'échec de ses prédécesseurs. Il restera à Luchon une trentaine d'années. Membre de la Société archéologique du Midi, il participe aux fouilles des thermes romains situés sur l'emplacement des thermes actuels. Edmond Chambert va construire avec une idée novatrice l'établissement thermal dans une écriture néoclassique. Tout s'organise dans un bâtiment rectangulaire avec une série de colonnes en façade. Le coût est de 600 000 francs or. Et le hall central est perpendiculaire. Il dessert les bains disposés en petits pavillons. Entre-temps, Chambert a voyagé dans la plupart des stations balnéaires d'Europe, Suisse, Savoie, Allemagne, France. Le système de distribution entraîne une meilleure circulation de l'air. Les patients sont conduits graduellement au bain sur le plan de la température. L'architecture des colonnades rappelle les thermes de Caracalla. Elles sont en marbre des Pyrénées et au nombre de 28, toutes monolithes. L'entrée est monumentale, le hall est décoré d'un tympan de mosaïque rappelant l'Antiquité. Les thermes de Luchon mesurent 93,30 m de long sur 53 m de large. Entre 1854 et 1858, Romain Case, ancien élève d'Ingres, né à Saint-Béat, peint un décor monumental. L'ensemble, et tout particulièrement l'allégorie centrale, rend magistralement compte de la fonction des thermes. La ville d'Eau conquiert ensuite l'espace. Le parc thermal forme un élément essentiel dans ce complexe thermal. En effet, la cure dure 21 jours. Il faut donc distraire et occuper les patients, assurer la rencontre des curistes entre eux. À partir de 1854, Chambert crée un parc à l'anglaise, avec lacs et buvettes. Un pavillon de musique était prévu autour d'une promenade, les quinconces, plantées de catalpas, en face du bâtiment central. Le long de la route d'Espagne, Chambert fait construire une piscine pour chevaux. Tout cela témoigne du goût pour une nature à la Rousseau, comme le toit de chaume de la buvette du Pré. Petite construction digne du hameau de Marie-Antoinette à Versailles. Chambert a dessiné également la colonne commémorative de la création de la nouvelle route d'Espagne avec les écussons de France et d'Espagne. N'oublions pas que l'impératrice Eugénie est d'origine espagnole. En 1860, Chambert reçoit mission afin de créer une statue à la mémoire de l'intendant d'Étigny. La statue est de Gustave Croc. C'est Chambert qui définit toute l'infrastructure et la place dans l'axe de l'allée des bains. L'habitat qui se développe ensuite a de curieuses spécificités. Si les hôtels qui s'y installent ressemblent à tous ceux des lieux de villégiature, les villas ou les maisons à louer ont une distribution particulière. Les familles des locataires arrivent avec leur domesticité et peuvent adopter un train de vie indépendant. Souvent, à demi enterrés, les services, la réception au bel étage et l'habitation au-dessus. En ville, un grand couloir traverse le rez-de-chaussée et permet un accès direct au jardin, souvent en contrebas. Viollet-le-Duc, dans une revue professionnelle, publie l'exemple de la villa Bonne Maison et félicite Chambert, son auteur, pour la bonne distribution des pièces. L'hôtel de Gorce, 77 avenue d'Étigny, présente une façade à trois niveaux et à cinq travées, est embellie par des pilastres cannelés d'ordre colossal. Le décor des garde-corps et des lambrequins de fonte ajoute un chic supplémentaire à l'horizontalité. L'hôtel est construit en retrait par rapport à l'alignement de l'allée. Une petite cour-jardin, clôturée et fermée par une grille, permet de s'installer pour suivre le va-et-vient des promeneurs. D'autres hôtels voisins sont accessibles au premier niveau par un double escalier à double volet, un perron en pierre, ainsi qu'une belle ferronnerie des rampes. Parallèlement au chantier des thermes, Chambert crée une architecture de villégiature avec des ouvrages remarquables. Nous allons les classer par ordre de leur construction. Il y a le chalet du docteur Spont qui a été construit entre 1848 et 1855. Il est en haut des allées d'Étigny, sur le flanc de la montagne. Les trois chalets Spont se caractérisent par une architecture de style alpin. Ils sont dédiés à une villégiature saisonnière. Chambert est l'auteur des trois chalets et le style correspond à la demande de la famille Spont. Le grand chalet passe pour avoir été copié sur une lithographie représentant un bâtiment de Bex dans le canton de Vaud, en Suisse. Les trois chalets sont traités de la même manière. Le rez-de-chaussée, en maçonnerie crépi, puis les autres étages recouverts de bois. Les vitraux sont parfaitement symétriques. Il faut y joindre les chalets russes et persans que la famille Narychkine possédait sur l'autre rive de la Pique. La villa Santa Maria est située au 14 boulevard Henri de Gorce, le long de la Pique. Alors, elle date des années 1840. Et là, lui est attaché le souvenir de la princesse Narychkine et d'Alexandre Dumas fils. Elle reprend le schéma de la villa palladienne, façade rythmée par quatre pilastres colossaux surmontant un fronton triangulaire. La façade postérieure est ouverte par une loggia centrale portée par deux colonnes toscanes au rez-de-chaussée et deux cariatides à l'étage qui viennent de la manufacture Virban de Launaguet. Il y a aussi la villa Tron, 30 allée d'Étigny, qui a été construite en 1854. Celle-ci aussi a été construite par Chambert pour l'ancien homme politique maire de la ville et la villa construite proche de l'hôtel d'Angleterre, légèrement en retrait des allées d'Étigny, qui a un volume cubique à trois niveaux au décor néo-renaissance. La façade est décorée de grotesques sculptés. Le fronton est semi-circulaire et à l'entrée, un tronc d'arbre maçonné rappelle le nom du propriétaire. On recherche le même pittoresque que dans les chalets Sponte à la Villa Diana, avenue de Benasque, et également à la Villa Esperanza, 52, allée d'Étigny. La Villa Diana, avenue de Benasque, est construite en 1859. Elle est destinée à Giuseppa Botti, au sud du parc. Elle présente de nombreux balcons et des toits débordants. La Villa Édouard, ou Castellet-Bonnemaison, conçue en 1861 par Chambert et de style toujours néo-gothique, présentant des tourelles d'angle, c'est aussi une villa destinée à la location. La villa Émeraude, construite par Chambert en 1866 pour le docteur André Barrier, et le monogramme se trouve sur la façade. Deux grands balcons ornent la façade centrale. L'hôtel Sartre-Sarivaté, 1866, se trouve en face les thermes. Il est construit par Chambert, toujours dans le style néoclassique. Les balcons sont présents à toutes les chambres. Ils possèdent des caves importantes pour le stockage. Un grand escalier d'entrée à deux volets symétriques. En 1867, lors de la venue du prince impérial, alors âgé de 11 ans, Chambert construit un pavillon proche de l'édifice thermal. Ceci en 10 jours. Un salon, une salle de bain et une piscine. Il sera reconstruit après l'incendie de 1888. Il y a aussi la Villa Bertin, 1868. Cette villa a hébergé aussi le prince impérial et sa suite. Elle deviendra la propriété de la ville de Toulouse en 1876, qui va la transformer en hospice Ramel, desservie par les sœurs de Saint-Vincent-de-Paul et qui fonctionnera l'été. Elle est aujourd'hui dans un grand état de délabrement, racheté par la ville en 2020. Edmond Chambert crée un chalet rustique pour l'hospice de Venasque en 1858, ainsi qu'un établissement scolaire en 1860 pour les frères des écoles chrétiennes en face de l'hôtel de ville. À partir de 1880, les thermes, malgré leur grand renom, deviennent moins attractifs. Le dernier moment significatif est celui de la décennie 1880, moment où la ville se dote d'un casino. C'est alors le triomphe du style Beaux-Arts, initié par Charles Garnier, et c'est Bernard Castex qui construit la Villa Louisa. Une villa château avec parc et dépendances, le long du parc boulevard Charles Tron. Cette villa résume toutes les ambitions. C'est un véritable château avec parc et dépendances, luxueuse ornementation qui anime la masse cubique, chaînage d'angle, fronton des fenêtres, travée triomphale d'entrée, lanternon, belvédère qui dépasse les souches de cheminée et les lucarnes. Les références rappellent le XVIIIe siècle. On remarque le même luxe plus modestement sur la construction de leurs écuries. Alors, le luxueux casino, ouvert en 1880, prend le relais. L'architecte Bernard Castex le construit et aménage le parc. Il concentre les distractions avec des salons de discussion, une bibliothèque, des salles de jeu et une belle salle de théâtre et d'opéra au lustre somptueux. Il renferme un cercle de jeux d'argent toléré et autorisé dès 1907. Le casino s'inscrit dans un cadre très moderne, offert pour une villégiature d'une ville parfaite. Un Paris réduit et idyllique, loin des agitations sociales. Le train de luxe Luchon Paris Express, mis en place en 1898 par des compagnies de wagons-lits, relie la capitale en 12 heures. Alliance de modernité et de rentabilisation, un train à crémaillère est ouvert en 1912 entre Luchon et Superbagnères grâce à l'effort du chocolatier Ludovic Dardenne et ainsi qu'une filiale de la Compagnie des chemins de fer du Midi. Ceci dès avant l'ouverture du Grand Hôtel en 1922. Luchon se lance ainsi dans la course aux sports d'hiver. De 7000 touristes sous le Second Empire, Luchon voit sa clientèle atteindre 50 000 curistes en 1903. La commune est propriétaire de l'ensemble des sources thermales dès 1878. Mais la compagnie fermière fait faillite. La ville se doit donc d'assurer les grands travaux entrepris. Malheureusement, avant 1914, malgré le succès de la station, la ville connaît une crise démographique qui n'échappe pas aux difficultés sociales. La saison touristique s'avère insuffisante pour équilibrer les finances. Actuellement, après les années de Covid, Luchon sort d'une période de morosité. Une volonté politique communale, départementale et régionale est ressentie. Le développement touristique, les colloques, festivals, les marchés, la remise en service de la crémaillère, le développement du ski, le balnéarium, la fête des fleurs, le golf, aérodrome, ville-étape du Tour de France, réaménagement des hôtels en appartements dévolus à la vente et location, les liens développés avec la clientèle espagnole, mais surtout le rétablissement de la ligne Montrégeau-Luchon avec un train à hydrogène en 2025. Tout cela doit permettre à Luchon de rester la reine des Pyrénées. Retrouvons-nous pour un autre brin d'histoire sur Radio Galaxie 98.5 FM.